à tous de nous rejoindre ce matin pour cette table ronde qui a lieu dans le cadre de la Semaine européenne du numérique responsable. Vous le savez, hein, il y a trois grands thèmes, trois grands parcours qui animent cette semaine. Des parcours qui sont la sobriété numérique, les solidarités numériques et puis les territoires et libertés numériques. On s'inscrit aujourd'hui au travers de cet événement dans ce troisième axe. Et on vous propose de faire un peu un tour d'horizon des concepts clés de la participation citoyenne et de comment elle est supportée par les outils numériques. On va un petit peu faire un tour d'horizon des outils existants, de leurs écueils. On s'attardera tout d'abord sur les concepts et les grands principes d'intelligence collective et de participation citoyenne. Et pour ça, on a tout un ensemble de participants, d'intervenants. Moi, je ne vais pas faire trop long, hein. Je vais rapidement laisser la parole, puisque je n'étais que un petit peu l'organisateur, l'initiative de cet événement, mais c'est mes collègues et vous, les intervenants. Qui avait tout le savoir et qui allait nous le partager. Alors, voilà, en introduction, ce que je vous propose, c'est de faire un petit tour de table. On n'est finalement pas très nombreux. On peut se permettre de tous se présenter assez rapidement, hein, de simplement se passer la parole pour indiquer qui vous êtes, ce que vous faites, la raison de votre présence aujourd'hui. Pour ce faire, ce sera idéal que je puisse vous désigner les uns après les autres pour se passer la parole. Je ne sais pas si j'ai une bonne façon de bien voir tous les participants. En tout cas, je peux commencer très rapidement et je vous propose ensuite d'enchaîner priorité les intervenants et puis ensuite autour de la table, vous pourrez vous présenter également. Tout d'abord, Julien Jecker, consultant chez Voirin. On intervient aujourd'hui au titre du Lab des usages, qui est notre petite cellule de recherche. On vous en reparlera plus tard. Et je vous en prie, Carole, je vous passe la main.
Bonjour à toutes et à tous, Carole Zielinski, je suis donc adjointe à la maire de Strasbourg, en charge de la démocratie locale, des initiatives et de la participation citoyenne, mais également de la citoyenneté européenne. Et je suis également conseillère à l'Eurométropole de Strasbourg. Et donc, c'est en ma qualité d'adjointe en charge de la démocratie que je suis présente aujourd'hui parmi vous.
Philippe.
Donc oui, Philippe Raffano, donc moi je suis chef de projet des outils numériques de la participation citoyenne pour la ville et l'Eurométropole. Donc je suis là pour ça aussi.
Dans l'ordre, Christophe.
Alors, Christophe Zimmermann. Alors, moi je suis animateur d'un cabinet qui est basé à Genève, en Suisse, donc, et travaille maintenant régulièrement avec le cabinet Voirin sur les déploiements de l'intelligence collective. Et je dirais que ce qui me mobilise en fait dans ces questions, c'est un besoin fort d'utiliser le numérique pour redoper en fait, je dirais, la culture démocratique. Et ça, c'est quelque chose qui est valable partout en Europe et ailleurs dans le monde.
Bonjour à
Grégoire.
tous. Bonjour à tous, Grégoire Japiot. Donc moi, je suis consultant et facilitateur en processus participatif avec un profil, avec un background un peu technique sur de la business analyse et avec une spécialisation donc sur les plateformes participatives et un peu aussi d'expérience sur tout ce qui touche au community management, ce qui permet aussi d'être assez efficace pour faire la communication autour de la mobilisation, de la modération, etc., dont on va parler un peu plus tard. Et donc, je travaille avec Matteo Mazzeri au sein d'une structure qui s'appelle Catalyson.
Manon?
Bonjour, oui, je suis Manon Serra, donc consultante pour le cabinet Voirin. Et j'interviens aujourd'hui dans le cadre des travaux du Lab des usages qu'on présentera un petit peu après. Dans ces travaux, j'ai réalisé un livre blanc sur la participation citoyenne et l'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter quelques notions développées dans ces travaux de recherche.
Théo, ensuite. Allô, allô.
Matteo, ton micro.
Micro est coupé, désolé, bonjour, Matteo Mazzeri. J'essaye de faire les liens essentiellement entre le numérique et la société afin de mettre le numérique, les outils du numérique à disposition de la société pour faciliter l'intelligence collective et aussi pour en responsabiliser les usages.
Termine. Myriam Zawi, consultante chez Voir un consultant aussi. J'interviens comme Manon dans le cadre des travaux du Lab des usages pour lequel j'ai réalisé des recherches autour du concept de ville intelligente ou smart city.
Alors voilà, je vous propose de continuer. Je vois qu'il y a Monsieur Larraz. Vous avez sûrement votre son coupé.
Oui, bonjour, j'avais le micro coupé et puis comme je suis pas familier de Zoom mais plutôt d'autres outils, bonjour, je viens aussi de Genève, je travaille dans l'administration cantonale et on est en charge d'aider l'administration cantonale dans sa transition à l'ère du numérique et parmi d'autres choses, ça comprend évidemment une orientation citoyenne forte dans toutes nos activités, c'est-à-dire embarquer les citoyens et la société civile le plus en amont possible dans les projets. Et les outils de Civic Tech sont un outil parmi d'autres pour la participation citoyenne. Je me réjouis de discuter, voir si ça dope vraiment les processus. Quoi.
Monsieur Girard.
Bonjour à tous, Clément Girard, je suis le directeur de la jeune direction de la participation citoyenne et particulièrement intéressé, passionné même par ces sujets de civic tech notamment.
Oui, Monsieur Schweitzer.
Oui, bonjour à tous. Je suis citoyen de Strasbourg, engagé depuis 2017 dans le Pacte pour la démocratie à Strasbourg. Et suivant de près les questions du numérique liées à la participation citoyenne, notamment comme participant au comité des usagers du numérique qui s'est terminé en 2019 et qui n'est pas encore renouvelé à Strasbourg.
Je crois qu'on va en parler. Madame Vatier.
Oui, bonjour. Moi, je travaille à l'Eurométropole de Strasbourg. Je suis référente ressources numériques d'une direction qui a en charge des services publics urbains. Donc, j'ai pas d'attente particulière par rapport à mes missions professionnelles. Par contre, je suis là parce que le sujet m'intéresse et par curiosité.
Merci. Peut-être qu'on fait un petit tour dans la salle de réunion côté de Djellali. Vous êtes installé.
Oui, vous nous entendez?
Oui, tout à fait.
Oui, ah, très bien. Bonjour, donc en salle, est-ce que vous nous voyez également? Parce que c'est pas très grave, on n'a pas besoin d'image, c'est juste pour savoir.
Non, on ne vous voit pas. Non.
Eh bien, alors, aussi bien, on n'a pas besoin d'image, c'est parfait comme ça. Allô? Oui,
oui.
Là, c'est bon. Voilà. En salle, les élus au numérique responsable. Donc, moi, je suis Caroline Zarn, vice-présidente Eurométropole de Strasbourg, en charge des questions numériques. Et donc, nous avons Christophe Hugon, qui est élu au numérique responsable à Marseille. Et dans un instant, nous aurons Bertrand Metz, adjoint au maire de Lyon, Louise Vialard, conseillère municipale de Nantes, Delphine Jamet, adjointe au maire de Bordeaux, et Amel Zenati, qui est conseillère auprès du maire de Grenoble. Voilà.
Super, merci beaucoup. Je vois encore qu'il y a un certain Thierry dans la salle.
Pardon, côté service, excusez-moi, je vous en prie, allez-y.
Bon, il y a Djelali Adjerassi, directeur du numérique et des systèmes d'information. Je serai dans une autre salle après, mais je suivrai le début de la conférence aussi.
Oui, bonjour. Désolé pour la caméra, j'ai des soucis de bande passante. Moi, je suis au sein de la DSI de la ville de Lyon et je suis là par curiosité. Voilà.
Merci à tous. Je crois qu'on a plus ou moins fait le tour. Il y a aussi quelques-uns de mes collègues autour de la table. Cette table ronde est enregistrée. N'hésitez pas à vous manifester si ça pose un problème. Ça a dû vous être indiqué lors de la connexion. On souhaite que ce soit participatif, collaboratif. Donc les présentations vont s'enchaîner, mais n'hésitez surtout pas à interrompre les intervenants pour poser des questions. Vous pouvez également poser vos questions dans le chat. Il y a l'une ou l'autre personne qui tâcheront de vous répondre en même temps. L'objectif, c'est bien que ce soit un échange et puis qu'on puisse tous s'enrichir mutuellement de nos connaissances et de nos retours d'expérience. Voilà, donc sans plus attendre et à moins qu'il y ait des questions, je vous propose de démarrer, de rentrer dans le contenu. Et on va donc commencer avec une présentation de ce qui est fait à Strasbourg, de la philosophie de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg autour de cette question et de son actualité toute récente. Madame Zielinski, je vous laisse donc la parole.
Merci beaucoup. On va parler un peu de philosophie de la participation citoyenne à Strasbourg et de ce qu'on a déjà en matière de numérique. On a un très fort enjeu à Strasbourg. Pour nous, qui en tout cas est l'enjeu primordial et qui est la base de la participation citoyenne, c'est l'accès aux informations. Et aujourd'hui, à Strasbourg, il faut savoir que le numérique contribue déjà à rendre vraiment plus accessibles les informations, que ce soit relatif à nos politiques publiques ou aux services qui sont mis en œuvre par la collectivité. Et on essaie de le faire de manière à ce que ce soit accessible, appropriable aussi. Il y a toute une dimension d'open data, mais on a vraiment le site participer.strasbourg.eu qui est là pour rendre accessible de manière appropriable et donc vulgarisée un grand nombre d'informations au sujet de la participation citoyenne. C'est plus de l'expérimentation à Strasbourg, puisque avec la démarche du Pacte pour la démocratie, il y a donc cette plateforme participer.strasbourg.eu qui a été mise en place à l'époque, qui est une plateforme que nous gérons, je dirais que l'exploitation n'est pas déléguée, mais Philippe vous en parlera bien mieux que moi. Et qui est vraiment cet espace qui a été travaillé avec des citoyennes et des citoyens pour vraiment qu'elle soit efficace, accessible. Et donc on n'en est clairement plus au stade de l'expérimentation puisque la plateforme a déjà aujourd'hui 4 ans. Il faut savoir qu'elle a été aussi saluée hein, comme territoire innovant au niveau national. On a reçu un prix Capcom en 2020 et on a d'autres outils comme le Robofil pour accentuer nos démarches de participation grâce au numérique. Le Covid a aussi beaucoup contribué à asseoir le numérique comme étant un élément essentiel de notre politique de participation citoyenne, mais de la participation de manière générale des habitants. Sur la plateforme dont je vous parlais, aujourd'hui, on a 12 700 abonnés et on a vraiment eu un bond en fait d'abonnement avec le Covid parce que le numérique, en gros, a vraiment participer à pouvoir mettre en place des dispositifs de participation citoyenne alors qu'on était en période Covid. On a eu notamment ce qu'on appelait des conférences citoyennes pendant la période Covid avec un format totalement distanciel, des ateliers totalement numériques pour continuer de faire vivre la participation, bien qu'on connaisse les écueils liés au numérique. Et je sais que au courant de cette semaine, vous avez déjà beaucoup, beaucoup parlé de fractures numériques, et donc ça, c'est un enjeu qui est réel. Aujourd'hui, il faut savoir qu'il y a quand même une grosse majorité de nos consultations qui sont rendues accessibles via la plateforme. Je crois que même toutes nos consultations en fait sont rendues accessibles via la plateforme, mais on arrive quand même à faire un peu plus que de la consultation en fait aujourd'hui avec la plateforme de participation citoyenne. Donc ça a été vraiment un moyen de garder le lien démocratique avec les habitants, malgré le fait que ce soit évidemment imparfait. On est bien d'accord, mais ça a quand même aussi permis de développer de manière assez rapide des nouveaux formats de réunions publiques en distanciel sur lesquels on s'était pas forcément investi jusqu'à présent. Et on en tire l'enseignement que le format hybride, c'est quelque chose que l'on garde aujourd'hui dans nos différentes manières de faire de la participation citoyenne, parce que ça rend aussi les sujets accessibles à des personnes qui, par exemple, ne pourraient pas se déplacer parce qu'elles auraient un handicap ou qu'elles seraient peut-être pas hyper assurées en venant participer physiquement à une réunion publique. Ça existe, et ben le faire à distance, c'est parfois plus rassurant, et donc ça permet à certaines personnes de venir participer alors qu'elles participaient pas jusqu'à présent. On a vraiment pour souci quand même d'améliorer clairement nos pratiques, parce que ce numérique-là, il est super utile. En revanche, il a des limites en matière de numérique responsable. C'est quand même pas toujours hyper simple de faire concorder toute cette nouvelle manière de faire avec des pratiques responsables. Donc, on a essayé de les intégrer dès le début dans notre travail, mais c'est pas forcément toujours hyper évident. Donc, on apprend clairement. Et puis, on a aussi des agents qui sont très investis sur cette dimension d'intelligence collective via le numérique dans nos projets d'aménagement. Je crois qu'on peut passer à la slide suivante. Comme je le disais, le numérique nous aide vraiment à être plus transparent, parce que on met aussi tout le résultat du travail réalisé par la collectivité sur différents sites, que ce soit sur le site de la participation ou sur le site de l'open data, comme je parlais juste avant. Mais on met aussi des travaux réalisés par les citoyens sur cette plateforme en lien avec les autres instances de participation qui existent. Et ça, c'est vraiment important pour pouvoir rendre accessible le travail fait par tout le monde. Donc, ça, le numérique, vraiment, ça nous permet de diffuser plus efficacement aussi nos appels à volontaires, donc de recruter largement pour former des jurys, notamment, là, j'en ai plusieurs en tête, que ce soit sur les antennes relais, c'est les exemples qu'on vous a mis, la vidéosurveillance, ou encore faire connaître la démarche de jury citoyen qu'on a fait pour Strasbourg, capitale de Noël. Et évidemment, on a envie de continuer de développer des nouvelles formes de participation pour mieux associer les citoyens et les citoyennes à nos prises de décision. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on se retrouve assez souvent avec, par exemple, des questionnaires ou des questions parfois ouvertes, mais pas forcément des dispositifs comme on pourrait les avoir sur des ateliers physiques. Et il n'y a pas que l'outil atelier ou questionnaire, etc. Il y a aussi la manière dont on exprime un choix, dont on exprime qu'on est d'accord ou pas avec une idée. Et c'est là-dedans qu'on va aller tester, par exemple, le jugement majoritaire. Alors là, on a mis, pour exemple, un sujet qui questionne, c'est la votation par blockchain. Mais je pense que en termes de numérique responsable, on a plein de choses à dire là-dessus. Améliorer évidemment nos analyses de consultation par le data mining. Évidemment, c'est pas parce qu'on a envie absolument d'aller sur ces pistes-là, mais c'est parce qu'on se questionne sur la pertinence entre l'efficacité et l'efficience en matière d'objectifs démocratiques et nos enjeux en effet de numérique responsable.
Et puis, il y a vraiment cette dimension, pour finir, d'impliquer les citoyens et les citoyennes dans la conception des services numériques, y compris dans la révolution. On parlait du comité des usagers du numérique tout à l'heure. En septembre 2022, il va vraiment être relancé pour appuyer l'évolution de la plateforme de la participation, parce que on a plein de remarques faites par des citoyens ou des constats adressés aussi par les agents qui s'occupent de la plateforme, et notamment Philippe Raffano, sur voilà les limites de l'efficience de la plateforme, et puis nous, nos enjeux aussi d'améliorer nos pratiques en matière de numérique. Donc ce comité des usagers du numérique, il va être relancé. Alors oui, on peut pas tout faire en même temps. Donc là, on a pris le temps aussi de réfléchir à quel serait le meilleur format pour bien associer les citoyens et les citoyennes dans ce comité. Et surtout, pouvoir partager avec eux les enjeux de la collectivité en matière de numérique, qu'ils puissent totalement se les approprier pour ensuite travailler à l'évolution de notre plateforme. Voilà en gros pour les grandes lignes de la participation citoyenne à Strasbourg vis-à-vis du numérique. Pour faire une synthèse, je dirais qu'on a un très fort besoin. On a déjà extrêmement bien intégré le numérique dans nos pratiques de participation. C'est pas nouveau ici. En revanche, ça reste quand même le début en matière de pratiques responsables du numérique. Et là-dessus, on a forcément beaucoup à apprendre. Et on va aller en ce sens pour avoir un équilibre juste entre cette participation citoyenne que l'on cherche à avoir et les bonnes conditions pour pouvoir les réaliser numériquement. Voilà.
Merci. Merci pour votre intervention. Sachez aussi, il y a quelques liens là, aussi bien dans ces pages que dans les suivantes. Le document sera mis à disposition sur le site, donc les liens seront applicables. Je propose de continuer, à moins qu'il y ait déjà des réactions à ce stade. Et sinon, je laisse la parole à mes collègues et on va repartir d'un peu plus loin sur des questions peut-être plus basiques, mais qui seront tout à fait développées. Et c'est Myriam, je crois, hein, qui oui. Prendra la parole en premier.
Alors, petite présentation des concepts, de la théorie d'abord, pour ensuite vous parler de nos retours d'expérience. Vous aviez vu tout à l'heure sur la diapositive avec les intervenants des logos. Il y avait notamment le logo de Lorient. C'est des références qu'on a mobilisées, qu'on a travaillées ensemble avec Christophe, Mathéo et Grégoire, et qu'on va ensuite vous présenter en format retour d'expérience, point fort, ce qui a bien marché et ce qui aurait pu être amélioré, en toute humilité. Pour commencer d'abord sur ce concept-là de participation citoyenne, je vais remonter encore un peu d'un niveau et parler d'intelligence collective. Pourquoi ? Parce que dans le cadre de notre lab des usages à Voirin, qui est une cellule de recherche et développement en interne, on a des programmes de recherche sur 5 ans en général, et le précédent qui a animé nos travaux et notamment les miens était orienté autour de la ville intelligente. Dans ce cadre-là, dans mes recherches, on a réussi à définir 3 types d'intelligence qui sont des leviers pour la gouvernance urbaine, qui doivent être mobilisés pour rendre plus rationnelle chaque ville en France, en s'appuyant sur des retours d'expérience et des recherches. Et dans ce cadre-là, il y avait évidemment l'intelligence numérique qui est au cœur du concept de Smart City. On a défini une autre intelligence qui est assez peu abordée, qui est celle de l'intelligence qu'on a appelée spontanée. Là, on faisait plutôt référence à l'approche de l'économie comportementale ou des nudges. Et puis, la troisième intelligence qui nous intéresse aujourd'hui, c'est l'intelligence collective. L'intelligence collective, nous, on l'a définie comme la capacité intellectuelle d'un groupe d'individus qui se réunit et interagit autour d'un objectif commun. Le plus largement, dans le cas précis des collectivités, on pourra même étendre et dire qu'on se réunit autour d'un sujet d'intérêt général. C'est donc dans ce cadre-là que notre lab des usages a mis le pied, on va dire, sur cette thématique-là de la participation citoyenne. Et puis, je vais passer la parole à Manon qui a approfondi ensuite ces recherches-là, vraiment avec un focus plus important sur la concertation et la participation citoyenne.
Merci Myriam. Oui, l'idée après avoir défini ces trois types d'intelligence, c'était de dresser un portrait de la participation citoyenne, de comprendre ce qu'on entendait par participation citoyenne et de faire le lien de façon plus générale avec l'évolution des rapports entre les organisations et les usagers citoyens en France. Donc ces recherches nous ont amené à réfléchir sur la notion de participation citoyenne. C'est pourquoi je vais présenter des choses qui sont peut-être des notions assez basiques que vous connaissez déjà. Donc n'hésitez pas s'il y a d'autres sujets qui vous intéressent plus particulièrement ou si vous souhaitez intervenir pour compléter. Tout d'abord, la participation citoyenne. Avant de parler de participation citoyenne numérique, c'est une notion qui est relativement floue. Aujourd'hui, quand on parle de participation citoyenne, on parle avant tout de démocratie participative, autrement dit de l'ensemble des démarches qui visent à associer des citoyens au processus de décision politique. La démocratie participative a connu un essor en France dans les années 60. C'est à ce moment-là que remontent les premières expérimentations en matière d'inclusion des citoyens au dispositif de décision politique. À cette époque, il y avait les démarches étaient plutôt l'apanage des militants. En fait, à ce moment-là, la participation citoyenne est née des mouvements de contestation qui protestaient contre l'accroissement des grands équipés et qui provoquaient un sentiment de mouvements de protestation se sont créés, des mouvements qui se voulaient être coopératifs et qui se sont organisés autour de ce qu'on a appelé des groupes d'action municipaux qui avaient pour objectif de mettre en place des commissions extra-municipales dans lesquelles les citoyens pouvaient participer, délibérer en présence des élus locaux. C'est donc à ce moment-là que remontent les premières expérimentations. Ah, je vois qu'il y a un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez mieux ?
En fait, il y a des moments où ça lague beaucoup et où le son a été complètement coupé.
Ah, mince.
On a perdu un tout petit bout de phrase, mais continue Manon et on va voir si...
En coupant ta caméra, éventuellement, ça pourra peut-être améliorer.
Voilà.
Oui, je vais faire ça. Ok, n'hésitez pas à me dire si ça continue. Donc ça c'était pour l'essor et progressivement la participation citoyenne s'est institutionnalisée. Autrement dit, ce sont les pouvoirs publics qui se sont emparés de cette question afin de créer des outils dans la loi, dans la Constitution, pour donner les moyens aux citoyens de participer autrement dans notre système représentatif. On a eu par exemple dans les années 90 la création de la Commission nationale du débat public et puis au fur et à mesure des années 2000, la création des conseils de quartier, de référendums locaux, de la pétition ou encore des conseils citoyens qui sont autant d'outils pas vraiment mobilisés aujourd'hui en France, on le verra après, mais qui permettent d'inclure différemment les citoyens au processus de décision politique. Ce qu'il est important de dire à ce stade, c'est que la participation citoyenne, on en parle énormément aujourd'hui. On en parle même de plus en plus depuis les années 2010, parce qu'elle elle est présentée comme un moyen comme un remède plutôt pour lutter contre le délitement de la confiance et la crise d'identité dont souffrirait notre système politique. En fait, il y a un double mouvement, un double phénomène qui remet en cause la légitimité représentative de notre système. Le premier, c'est donc ce sentiment de crise de la démocratie participative, l'impression qu'on est arrivé, que notre système s'essouffle, qu'on est arrivé au bout de quelque chose qu'il convient de renouveler. Cette crise, elle est souvent présentée sous plusieurs niveaux. C'est une crise multidimensionnelle, à la fois une crise de la légitimité des institutions représentatives, une crise de l'efficacité de notre système représentatif, et enfin, une crise fondée sur la contestation des représentants élus. Il y a une enquête qui a été publiée l'année dernière par le CEVIPOF qui montre que les mots les plus en avant, les plus mis en avant par les enquêtés, interrogés sur ce qu'ils éprouvaient à l'égard de la politique, sont la méfiance à plus de 40% et le dégoût à plus de 20%. Donc on voit qu'il y a une vraie vision négative sur notre système politique aujourd'hui, et à cela s'ajoute une véritable défiance à l'égard de ceux qui pratiquent la politique. Et parmi les personnes interrogées, près de 60% précisaient que les élus et les dirigeants étaient plutôt corrompus. Il y a un deuxième mouvement qui explique que la légitimité représentative de notre système est remise en question aujourd'hui. L'augmentation du niveau d'éducation, l'accroissement de la place des réseaux sociaux dans notre société, mais aussi la montée en puissance des mouvements contestataires qui, en fait, contribuent tous à transformer le rapport qu'entretiennent les citoyens à l'action publique. Progressivement, il y a eu ce mouvement d'institutionnalisation dont je parlais, qui permet de doter les citoyens d'outils afin de participer autrement à nos systèmes représentatifs. Et il y a aussi eu une véritable création d'une ingénierie de la participation citoyenne, avec tout un tas d'acteurs qui se sont formés, qui se sont présentés sur la place publique pour pouvoir accompagner les citoyens et faire de la politique autrement, penser la décision politique autrement, ce qui amène des auteurs à parler aujourd'hui d'un véritable impératif participatif. Qui permet en fait qui serait là pour répondre aux demandes des citoyens afin d'insuffler une nouvelle dynamique démocratique. Et ce qu'on verra tout à l'heure, c'est que cet impératif démocratique qui est vraiment présent dans la société se double aujourd'hui d'un impératif numérique que l'on présentera après. Mathéo, est-ce que tu pourrais passer à la slide suivante, s'il te plaît ?
C'est Julien.
C'est moi qui ai la main. Mais
c'est Julien. J'ai pensé après. Merci, Julien. Aujourd'hui, quand on parle de participation citoyenne, on a un peu de mal à classer l'ensemble des dispositifs qui existent, puisqu'il y en a, il en existe à foison. Mais en règle générale, on se fonde sur une échelle. C'est l'échelle d'Einstein. C'est une sociologue qui a créé cette échelle dans les années 60 aux États-Unis. Ici, je vous en présente une version simplifiée, mais normalement, il y a 8 paliers qui existent, qui sont regroupés autour de 3 niveaux. La non-participation, la participation symbolique et puis la codécision. Aujourd'hui, en tout cas, l'ensemble des dispositifs que l'on connaît en France peuvent être regroupés autour de 4 niveaux. Le premier permet aux citoyens d'être informés de ce qu'ils produisent. Donc, le premier objectif des démarches de participation citoyenne qui entrent dans ce niveau est de communiquer envers les citoyens, de les tenir informés. Le deuxième niveau permet aux citoyens de partager leur avis, de s'exprimer, d'être consultés sur un sujet. Cependant, ce niveau ne permet pas de s'assurer que leur avis soit pris en compte. Le troisième niveau, le niveau de co-construction, rassemble l'ensemble des démarches qui permettent aux citoyens de proposer des idées, de contribuer, de co-construire ensemble autour d'un projet. Il y a également ici, le niveau de participation des citoyens est plus élevé ici qu'au niveau des 2 premiers paliers, mais il n'y a pas encore de garantie à ce que leur avis soit pris en compte dans les décisions. Et enfin, le niveau le plus élevé, le plus abouti en matière de participation citoyenne, c'est la codécision. Ça regroupe l'ensemble des démarches qui permettent aux citoyens de prendre part réellement aux décisions. Ça peut être par la délégation, par exemple, d'une partie du pouvoir dans une instance. Ce qui est important de dire à ce stade, c'est qu'aujourd'hui, les démarches qui existent en France, ce sont des démarches qui entrent plutôt dans les 3 premiers paliers, puisqu'il est relativement difficile aujourd'hui de céder une partie du pouvoir aux citoyens, comme l'entend la sociologue Einstein. Julien, est-ce que tu peux passer à la slide suivante ? Merci. Donc la participation citoyenne, comme je le disais, connaît un vrai véritable essor ces dernières années. On en parle beaucoup, on en entend parler à toutes les élections, et on se rend compte que depuis les années 2010, elle n'est plus ni l'apanage des militants, ni un sujet réservé à une classe politique particulière, puisqu'aujourd'hui, peu importe la couleur politique, on se rend compte que les communes, les institutions mettent en place des dispositifs en matière de participation citoyenne avec des objectifs différents et des intérêts différents. Donc ici, l'idée, c'était de vous montrer en fait l'ensemble des bénéfices qui sont présentés lorsqu'on met en place des démarches en matière de participation citoyenne. Tout d'abord, la participation citoyenne, c'est un moyen de favoriser la cohésion sociale et d'instaurer un apprentissage collectif, puisque les enquêtes montrent que les personnes qui participent de façon régulière à ces démarches-là cherchent en partie à créer du lien social, à également bénéficier d'un enrichissement cognitif. C'est vraiment cette expérience collective qui crée du lien et qui fait partie, comment dire, soit des objectifs, soit des résultats des démarches de participation citoyenne. C'est également un moyen de réconcilier les citoyens avec les démocrates, avec la démocratie. Donc je l'ai présenté, on en reparlera par la suite, mais aujourd'hui, la démocratie participative, quand elle est institutionnalisée, quand elle est juxtaposé à des dispositifs de démocratie représentative, a pour objectif de donner envie aux citoyens de se réintéresser à la chose publique et donc de les réconcilier avec la démocratie. C'est aussi un moyen de recentrer la politique au niveau citoyen et de créer une véritable culture politique citoyenne. Il y a plusieurs auteurs qui montrent que la participation citoyenne a de vrais bénéfices sur les processus d'acculturation des citoyens et sur leur socialisation politique, puisqu'elle crée de l'intérêt, elle crée de l'engouement. C'est également un moyen de favoriser la transparence de l'action publique. Ça a été un peu dit en introduction, mais dans les objectifs présentés par les démarches de participation citoyenne, c'est d'être plus transparent envers les citoyens, c'est d'expliquer, c'est d'informer afin de les rendre, de leur donner toutes les clés en fait, de pouvoir s'intéresser, participer et contribuer à l'amélioration de la société en règle générale. Et enfin, il y a deux derniers arguments qui sont souvent présentés. C'est le fait de rendre les décisions plus efficaces, mais aussi plus légitimes. Dans ce courant de pensée-là, on fait appel aux travaux notamment d'Habermas et de tous les auteurs qui travaillent sur la démocratie délibérative. C'est une forme de démocratie participative, mais qui se concentre en particulier sur les débats et les apports des échanges entre les citoyens. Selon la démocratie délibérative, la délibération, le fait d'échanger, de débattre ensemble, c'est un véritable cercle vertueux, puisque plus on délibère, plus on expérimente et plus on gagne en intérêt pour la chose publique. Et in fine, ce que montrent ces auteurs-là, c'est que les débats permettent de changer en fait son rapport au monde, puisque en étant confronté à des avis différents, on apprend aussi à voir les choses différemment. Et il y a un effet qui est souvent présenté, c'est le fait de tendre vers un consensus. Et donc, en créant des décisions plus consensuelles, on crée aussi des décisions plus efficaces, qui sont plus en accord avec les besoins des citoyens, avec leurs attentes, et qui créent une forme d'unanimité autour d'un consensus, un compromis en fait, qui permet de rendre aussi les décisions plus légitimes. On déplace en fait la focale, la décision n'est plus légitime parce qu'elle a été prise par des personnes que l'on a élues, à qui on a donné une part de notre pouvoir, mais parce qu'elles ont été pensées de façon collective autour de besoins communs. Je vois qu'il y a des commentaires. Entre la consultation et la co-construction, un niveau de concertation est différencié dans le pacte à Strasbourg. Monsieur, est-ce que vous voulez développer peut-être dans la concertation, quelle différence vous faites avec la co-construction ?
Oui, Oui, j'étais surpris dans votre présentation parce que le pacte différencie clairement une étape intermédiaire entre la consultation et la co-construction. La consultation, une solution est proposée aux citoyens, mise à consultation, typiquement une votation, par exemple, qui a eu lieu il y a une dizaine d'années à Strasbourg sur les zones 30. La solution est préparée dans son calendrier, dans son plan, on consulte. La co-construction, on a un problème à résoudre et par étape, on avance en collaboration dans un mécanisme de participation pour trouver des solutions, on fait des scénarios, on les analyse, enfin la co-construction est complète. La consultation, on a une solution en tête, on ne sait pas comment l'organiser et on organise une consultation pour mettre au point la procédure, le projet. Voilà. Donc, et donc, c'est pas de la, enfin, la consultation, c'est, voilà, ça le différencie de la consultation, qui est la situation où la solution est prête et on consulte pour savoir si oui ou non on l'adopte. De savoir comment la population, apprécie une solution qui est finalisée. Or, dans la consultation, dans le dialogue de la participation citoyenne, on met au point cette solution elle-même. Voilà, c'était
le
distinguo que je voulais apporter par rapport au schéma que vous proposiez.
Ok.
Il est tel qu'il est pratiqué à Strasbourg, au moins tel qu'il est écrit dans le pacte.
D'accord.
En pratique, c'est peut-être plus compliqué.
C'est ça. Si je peux rebondir là-dessus, en fait, sur cette échelle à Strasbourg, mais Monsieur Schweizer connaît bien, en fait, il faut se dire qu'à Strasbourg, le 3 remonte en 4, et dans le 3, on a ce qu'on appelle la concertation. Et en fait, je pense qu'on joue un peu sur de la sémantique, mais les objectifs restent globalement les mêmes. On aurait donc information, consultation, concertation à la place de co-construction, et co-construction correspondrait à ce que vous appelez dans le schéma de la co-décision. D'accord. C'est juste une question de sémantique et de manière dont on voit les choses. Et on sait de toute façon que ce genre d'échelle, il y en a plein de différences. Et en ayant discuté avec mes homologues francophones, je vois que par exemple à Bruxelles, ils n'ont pas exactement non plus les mêmes manières de désigner les choses, mais on met globalement les mêmes définitions au fond. Mais ce qui est du coup d'autant plus important de préciser de quel registre on parle lorsque on met en place une démarche de participation. Est-ce qu'on est bien dans de l'information et qu'est-ce que c'est que l'information? Bien dans de la consultation et qu'est-ce que c'est que la consultation, etc., etc.
Oui, excusez-moi, sans vouloir, mais le 4, par contre, dans la présentation, me semble bien distinctif de la participation telle qu'elle est organisée à Strasbourg, c'est celle que je connais. Hein. Il ne me semble pas qu'on ait à Strasbourg des processus de co-décision, puisque quelle que soit la solution élaborée, c'est le conseil municipal qui délibère et qui adopte les budgets, etc. Donc, je suis pas sûr qu'à Strasbourg, on ait des processus de co-décision.
C'est la nuance que je voulais apporter. Sur la co-décision, enfin, c'est peut-être à livrer au débat, mais le budget participatif est finalement un dispositif où les participants prennent des décisions ensemble et ont effectivement une responsabilité sur les projets.
Le budget participatif, comment il est organisé? Comment se fait la sélection des projets à la fin? C'est ce qui permet un peu de déterminer justement si on est dans la co-décision ou pas.
Ouais, sur le budget participatif, l'exemple est très bon. Il y a des critères de recevabilité du budget et des critères de faisabilité par rapport aux capacités des services et aux choix politiques des services. Dans la dernière saison du budget participatif, on a eu naturellement des projets retoqués parce qu'ils n'étaient pas recevables, mais on a eu 110 projets qui ont été retoqués parce qu'on les a écartés du vote des citoyens. Ça, c'est les services et les politiques qui ont pris cette décision, 110 projets, donc je ne pense pas qu'on soit dans un processus de codécision, puisque la principale sélection est faite par les services et les élus.
Je me permets de réagir peut-être là-dessus rapidement. Effectivement, vous l'avez bien dit, le budget participatif il se déroule en plusieurs phases. On a une première phase de recevabilité, on s'assure que les projets correspondent à un intérêt général, rentrent dans les compétences de la collectivité, s'inscrivent dans le budget d'investissement, qui est le budget mobilisé pour le budget participatif. Ensuite, vient effectivement une étude de faisabilité. Mais là où je tique, c'est que quand vous dites, Monsieur Schweitzer, qu'il y a une sélection politique par les services de la ville, c'est bien une étude de faisabilité technique pour s'assurer que les projets qui seront soumis au vote ensuite pourront effectivement être réalisés dans les deux années que se donnent les services pour réaliser ces différents projets. Et c'est sur cette base ensuite qu'effectivement ils sont soumis au vote et donc en quelque sorte ils sont décidés par les citoyens. Peut-être que ces sujets on pourra les réaborder prochainement puisqu'on va avoir une évaluation en tout cas du budget participatif et que tous ces points et notamment les retours sur l'étude de faisabilité seront présentés dans le groupe de suivi du dispositif qui est dédié. Mais voilà, effectivement, en tout cas côté service, nous on porte un dispositif où on est heureux de faire co-décider des habitants sur des projets citoyens dont on s'est assuré de la faisabilité technique.
Merci à tous pour ces interventions. Je vous propose de continuer et de se rapprocher des questions de numérique qu'on va aborder après cette slide.
Oui, dernière présentation avant d'aborder avec plus approfondissement la participation citoyenne numérique. Donc aujourd'hui, il y a un nombre de dispositifs de participation citoyenne assez important en France, même un foisonnement de dispositifs qui existent, que ce soit sur le plan légal ou sur le plan, qui regroupe toutes les initiatives qui viennent directement de la société civile. On peut également parler du budget participatif, hein, comme on vient d'en parler. C'est pas du tout un dispositif qui émane à l'origine des institutions. Hein, ça vient d'une revendication sociale. Et puis ensuite, le dispositif a été, les collectivités se sont appropriées ce dispositif et permettent aujourd'hui effectivement de donner un pouvoir de décision aux citoyens relativement important, en tout cas plus que ce que ne peuvent le faire certains dispositifs qui sont inscrits dans la Constitution ou dans la loi. Pour autant, même s'il y a un grand nombre de dispositifs qui existent, on constate que le niveau de participation demeure relativement faible. C'est en moyenne 5% pour les budgets participatifs et ça peut varier entre 1 et 20% en fonction des dispositifs. Il y a donc plusieurs défis à relever aujourd'hui afin d'inciter, de donner envie aux citoyens de participer, de s'engager pour ces dispositifs-là. Et dans les écueils, les freins en fait qui sont présentés, on a notamment le déficit d'information et de transparence. Puisque dans certains dispositifs qui existent, on se rend compte que il y a de l'opacité en fait qui demeure, que les projets qui sont parfois présentés ne sont pas réalisables, que les citoyens ne sont pas pleinement informés sur le niveau de pouvoir en fait qui leur est donné. Est-ce qu'on va les consulter? Est-ce que leur avis sera réellement pris en compte ou pas? Donc voilà, c'est pour ça que je trouvais intéressant le fait de bien préciser comment a été organisé le budget participatif à Strasbourg, hein, puisque c'est en partageant un maximum d'informations sur le niveau de participation qui est attendu des citoyens, sur les possibilités qu'on arrive à gagner en transparence, en confiance, et donc à mobiliser les citoyens sur ce type de dispositif. Il y a un écueil qui est présenté très largement, c'est que les dispositifs de participation citoyenne ont tendance à réunir toujours les mêmes personnes. On parle même d'un effet toujours les mêmes, et donc on les Ils sont parfois critiqués pour leur manque de représentativité, pour la fracture sociale générationnelle qui existe au sein des dispositifs, puisqu'on le voit bien, ce sont les classes sociales supérieures, celles qui sont dotées d'un capital culturel important, qui sont surreprésentées, les personnes âgées également, puisqu'elles ont plus de temps pour s'y consacrer. Et on voit qu'il y a une nette sous-représentation des jeunes, mais également des étrangers et de toutes les personnes qui sont en règle générale éloignées de la chose publique. Donc il y a un véritable effet miroir ici de la démocratie représentative, puisque finalement les écueils de la démocratie représentative peuvent parfois se retrouver dans les initiatives participatives. Ce sont finalement les mêmes ressources qui pèsent, à savoir l'expertise, les compétences techniques, le capital culturel des personnes et la proximité qui prévalent parfois dans les dispositifs. Il y a également une autre critique qui est faite, c'est l'attachement pour la démocratie représentative. Alors là, il y a plusieurs choses. Il y a une critique qui est relativement minoritaire aujourd'hui, c'est le fait de dire que c'est la vision élitiste, en fait, qui dit que le citoyen ne serait pas compétent, ne serait pas apte pour participer, pour prendre des décisions, ce qui fait que certaines collectivités peut-être ne vont pas encore dans ce type de dispositif. Il y a également d'autres critiques qui montrent que finalement le citoyen, c'est pas un citoyen qui est désintéressé, qui ne s'intéresse pas vraiment à la politique. Ça peut être aussi un citoyen qui a connu des désillusions, qui n'est pas motivé en fait pour s'engager, qui n'a pas forcément d'avis, de préférence politique, et ce qui peut expliquer pourquoi il n'est jamais présent dans ce type de démarche. Et il y a un autre ensemble de critiques qui montrent que en fait il y a une véritable fiction de la représentation qui est ancrée dans notre imaginaire politique. Il y a un réel attachement pour la démocratie représentative qui freine parfois les démarches de participation citoyenne, puisque certaines personnes ne souhaitent pas s'impliquer en défendant en fait cet imaginaire représentatif et en soutenant le système représentatif, et donc en faisant une scission entre ce qui relèverait du participatif et ce qui relève du représentatif, comme si les deux étaient antagonistes. Et enfin, la dernière critique qui est faite, et donc c'est un véritable défi à relever, c'est ce qu'un chercheur, Guillaume Gourg, appelle le civic washing. À l'instar du greenwashing, il existerait aujourd'hui un civic washing dans les démarches de participation citoyenne. Et en fait, ce chercheur montre qu'il y a des initiatives aujourd'hui qui se révèlent être totalement contre-productives, puisque les citoyens, il y a deux choses. La première, c'est que on aurait tendance à se concentrer sur la forme davantage que sur le fond. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un véritable foisonnement de démarches, de dispositifs qui existent aujourd'hui, mais finalement, comme on s'interroge pas vraiment sur les objectifs et comme on n'a pas une vision globale de la participation citoyenne, de ce qu'on attend des citoyens, les démarches n'avancent pas et voilà, il y a un effet de, il y a la frustration qui est créée et puis l'impression également que les dispositifs ne sont pas efficaces, qu'on ne va pas assez loin. Et le deuxième pan, c'est que on parle parfois de civic washing quand il y a des dispositifs qui, en fait, ne permettent pas aux citoyens de vraiment prendre de décisions, puisque les décisions qui sont finalement prises, ce sont des décisions qui vont dans le sens de ce qui avait déjà été décidé par les élus, de ce qui finalement ne, voilà, il y a une sorte d'opacité en fait sur la sélection des idées et de ce qu'on fait en fait des débats avec les citoyens. Voilà, s'il n'y a pas de remarques, je vous propose qu'on passe au sujet de la participation citoyenne numérique et qu'on se concentre en particulier sur les outils de Civic Tech.
Allons-y, je ne vois, vois pas de remarques directement dans le chat, donc je vous propose de continuer. Et puis c'est vrai qu'il nous reste une heure, donc profitons de celle-là pour partager plus en détail sur ces fameux outils de Civic Tech.
Ok, Christophe, est-ce que tu voulais présenter?
Oui, alors peut-être que la définition en fait de ce que c'est la Civic Tech, ce qui est intéressant en fait dans le mouvement en fait qui finalement permet en fait l'éclosion en fait de ce mouvement. J'en reviens un petit peu sur des fondamentaux, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui nous a amené en fait à pouvoir agir dans le numérique et la démocratie. C'est effectivement la montée de l'open data, mais aussi en fait l'essor du numérique. Et l'essor du numérique, en fait, il a à la fois amené en fait des potentiels techniques et de permettre en fait de, par exemple, de mener à bien, de construire des conversations dans un espace digitalisé. Mais il est aussi, et depuis, c'est très sensible depuis le début des années 2000, conduit en fait à une archipélisation des opinions, c'est-à-dire que grâce au moteur en fait des algorithmes, on voit que l'opinion se construit dans un des vases clos, de plus en plus clos, où en fait on s'informe dans des sources qui sont de plus en plus homogènes. Et en fait, ça a été déjà documenté, par exemple en 2008 avec l'élection de Obama aux États-Unis, où on voyait très bien que l'électeur démocrate et l'électeur républicain finalement avaient un cluster d'informations qui était toujours tiré en fait des mêmes sources et des sources qui étaient de moins en moins reliées les unes aux autres. Et en fait, on voit bien qu'en fait cette digitalisation de la société, elle comporte à la fois une opportunité, c'est-à-dire de créer, d'amener le débat dans des plateformes numériques civitech, mais elle répond aussi en fait à ce défi de recueillir, enfin de retisser en fait des liens entre des communautés qui sont de plus en plus séparées. Je pense que ça, c'est un de nos enjeux forts, et pourquoi en fait, à mon sens, si vous voulez, la démocratie numérique est vraiment importante à développer aujourd'hui, c'est parce qu'elle permet d'amener un contre-feu finalement à ce mouvement d'archipélisation. Je voulais dire tout à l'heure aussi que la défiance à l'égard du politique, elle naît aussi, peut-être un élément qu'on n'a pas évoqué, mais qui me semble aussi assez ancien, c'est la perte de capillarité, de la relation entre les élus et les citoyens. Auparavant, il y avait dans des collectivités, bon, évidemment, plus elles sont petites et locales, plus c'est facile, mais même à ce niveau-là, il y a une perte de relation. Souvent, le monde associatif, finalement, perd de sa puissance et perd, en fait, de cette capacité à relayer, à faire remonter en fait les humeurs publiques. Et on voit bien à quel point aujourd'hui, tout d'un coup, on a l'impression que les politiciens peuvent être, même les collectivités publiques, peuvent être peut-être un peu décalées par rapport aux humeurs citoyennes qui se sont tout d'un coup, par exemple, cristallisées dans des mouvements comme les Gilets jaunes. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu sur cette ambition en fait qu'il y a autour de créer en fait des outils numériques au service d'une démocratie qui sont vraiment en fait à mon sens quelque chose d'essentiel pour créer une forme de restauration, un aggiornamento de la démocratie. Et je pense qu'on en a en fait un devoir presque, en tout cas une mission qui me semble vraiment essentielle aujourd'hui. Peut-être passer à la diapositive suivante.
Je voulais juste compléter tes propos, Christophe, pour préciser que dans les civic tech, on a vraiment une grande diversité d'outils qui existent en France. On peut parler des applications de signalement qui permettent aux usagers de signaler un dysfonctionnement, par exemple, sur la voie publique. Il y a tout ce qui est plateforme de pétition, il y a des plateformes de débat en ligne. Il y a vraiment un foisonnement de dispositifs qui existent et qui permettent de retrouver les mêmes niveaux présentés tout à l'heure sur l'échelle d'Einstein. Et il y a des cartographies qui ont été faites par des chercheurs qui permettent de montrer que dans ces dispositifs-là, il y a plusieurs objectifs. Il y en a qui permettent exclusivement d'informer les citoyens. L'objectif, c'est vraiment de gagner en transparence, de transmettre des informations. Dans ces dispositifs, on trouve des applications autour des informations électorales. Par exemple, il y a le site vox.org, tous les médias qui diffusent l'information, qui permettent en fait de donner davantage de transparence sur l'action publique. Il y a également les outils qui permettent de mobiliser. C'est tout ce qu'on, c'est toutes les civic tech sur les enquêtes d'opinion, les pétitions également, comme avec make.org. Le but, c'est vraiment de créer, de réunir des communautés et d'interpeller en fait les autorités grâce au poids des communautés. Et enfin, dans les outils qui existent, on a des outils de coproduction qui permettent de donner des, comment dire, avec différentes fonctionnalités qui permettent à la fois d'organiser des débats, mais aussi de co-construire ensemble. Et c'est par exemple les budgets participatifs ou encore les boîtes à idées. Donc voilà, l'idée, c'était juste de préciser qu'on retrouve en fait ces mêmes niveaux de participation que dans les outils qui ne nécessitent pas d'avoir recours au numérique.
Merci. Je vous propose de continuer, du coup, s'il n'y a pas de réaction à cette première... Introduction des Civic Tech.
Je vais prendre le relais. Donc déjà, ce qui nous paraissait important de partager, c'est que les Civic Tech aujourd'hui sont des véritables leviers d'attractivité pour des collectivités. C'est des outils qui permettent d'augmenter les interactions, en fait, d'avoir des interactions plus directes avec les citoyens. Les outils, donc comme je disais, il en existe à foison. Ce sont des outils qui sont relativement simples d'utilisation normalement, qui sont utilisables à n'importe quel moment, n'importe où, et qui permettent donc d'augmenter le nombre de participants et ainsi d'augmenter aussi la représentativité dans une certaine mesure. Ce sont des, par exemple, ces outils, on le voit souvent dans les études qui sont menées, permettent d'obtenir des contributions des personnes qui généralement ne se déplacent pas dans les dispositifs de participation citoyenne classique, comme les jeunes. Ce sont des outils qui permettent aussi de rapprocher, dans une certaine mesure, les citoyens aux collectivités, mais aussi, en règle générale, aux organisations qui ont aujourd'hui un rôle assez opaque pour les citoyens, qui sont généralement pas trop comprises, dont le rôle est vraiment pas clair. Je pense notamment aux agglomérations, aux communautés de communes, à tous les établissements publics, en règle générale, de coopération intercommunale. Ce sont des établissements qui sont pas forcément connus, dont les compétences ne sont pas forcément claires par les citoyens. Et le fait de mettre en place des dispositifs comme ça, ça permet parfois de créer de nouvelles interactions et donc de créer de nouveaux liens avec les citoyens. Ces outils permettent aussi de créer un attachement au territoire puisqu'ils mettent à disposition des citoyens des informations, ils leur permettent de débattre, de délibérer sur des sujets qui se concentrent sur une partie du territoire, sur des enjeux de proximité. Ces outils permettent également de faciliter la communication, de garantir la continuité des actions participatives. On l'a vu bien sûr avec le contexte du Covid, les collectivités ont eu à cœur en France de continuer à mener des démarches participatives, même lorsque les réunions en présentiel n'étaient plus possibles, et donc elles se sont adaptées. Il y a des études qui montrent qu'elles se sont toutes progressivement dotées d'outils pour réaliser des visios à distance, pour également de mettre en place des plateformes citoyennes en ligne qui permettent aux citoyens de continuer à contribuer, à partager des idées, même s'ils ne peuvent plus se rencontrer pour en échanger. Et finalement, ces outils permettent de traiter un nombre conséquent de données. Donc, ils facilitent les démarches de participation citoyenne, hein, puisqu'on peut on gagne du temps, on gagne aussi en analyse. Et ils offrent aussi des fonctionnalités que, alors soit qu'on n'en retrouve pas forcément lorsqu'on se réunit en présentiel, soit qu'ils sont plus difficilement mobilisables en présentiel. Et donc je pense notamment à ces outils qui permettent de partager très facilement des contenus vidéo, des contenus interactifs, de mettre en place aussi des votes anonymes très facilement. Il y a des plateformes qui permettent, voilà, qui ont des fonctionnalités tellement larges que l'on peut facilement regrouper plusieurs dispositifs qui existeraient en présentiel en un seul dispositif. Christophe, tu souhaites continuer sur les faiblesses?
Bon, oui, sur les faiblesses, peut-être parce que j'ai mon micro. Oui. Oui, sur les faiblesses, c'est vrai que bon, il y a un certain nombre d'éléments qu'on a pu noter sur la fracture numérique. C'est vrai que il faut d'ailleurs, il y a des paradoxes, c'est-à-dire que souvent on pense aux aînés et on pense que les jeunes sont facilement, et c'est aussi ce qui est vu, par exemple par rapport à au déplacement, mais c'est pas si univoque, enfin c'est pas aussi linéaire, parce que on a vu des, comment on appelle ça, la silver société de gens assez bien éduqués qui arrivaient très bien à se connecter dans des univers numériques, et puis peut-être des plus jeunes qui étaient plus attachés finalement à un univers de smartphone, finalement avoir aussi une difficulté à rentrer dans des processus plus disons plus exigeants que représentent les civic tech. Il y a une chose que je voulais dire aussi, c'est que en fait la question en fait de, enfin, ce que nous on a appris aussi de ces éléments de civic tech en les mettant en place dans des avec des administrations publiques, c'est qu'elles mettent aussi en tension finalement la relation entre le citoyen et la collectivité publique sous différents angles. Le premier angle, c'est que il y a le participatif finalement va mettre en tension le côté vertical de l'organisation des collectivités publiques, parce que ce qui est participatif est nécessairement transversal. Et ça aussi, c'est un aspect vraiment important qu'on a pu observer, de voir que en fait, si on fait du participatif dans une collectivité publique, on va très vite achoper finalement à la division en silos. Et c'est une chose auquel il faut vraiment prêter attention. Et c'est ce qu'on a pu faire, on en parlera peut-être dans l'exemple de Lorient, avec un certain succès en impliquant notamment la DGS et en impliquant les services. L'autre chose qui nous est apparue aussi, c'est le fait que, c'était peut-être une nouveauté, une surprise, c'est que ces processus participatifs mettent en tension les collectivités publiques sous un angle inédit qui nous a surpris. C'était une division plus horizontale, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a des exécutifs finalement qui s'engagent de manière un peu, en faisant du civic tech washing, à de manière incantatoire dans un processus de participatif avec une civic tech, et puis en fait c'est pas suivi d'effet. Alors peut-être que voilà, on a un exemple notamment en France avec le débat citoyen qu'avait organisé Emmanuel Macron, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi finalement un autre processus, c'est que parfois le blocage vient d'en bas, c'est-à-dire que une volonté politique d'incarner en fait un processus participatif peut ne pas être lié en fait avec, enfin, c'est comme s'il y avait en fait une différence entre la tête et les jambes, et qu'en fait l'opérationnel finalement résiste par rapport en fait à l'intention participative. Et là aussi c'est extrêmement important, et c'est aussi l'exemple de Lorient qui nous a montré ça, de bien mettre en lien les exécutifs avec l'opérationnel pour qu'en fait le processus participatif soit vraiment suivi d'effet. Donc voilà, c'est peut-être un peu au-delà des questions de convivialité ou d'interaction sociale ou même de fiabilité telles qu'ils sont évoquées ici. Je dirais des éléments clés qu'il faut mettre en évidence, qui sont vraiment importants quand on veut conduire un processus participatif avec des citoyens, et pour que ça apporte quelque chose d'utile et de fonctionnel dans une collectivité. On peut peut-être passer à la diapositive suivante. On va parler de Lorient, alors.
Ouais, on va vous présenter un retour d'expérience qu'on a cité déjà un petit peu. C'est celui de l'agglomération de Lorient, pour laquelle on a été mandaté pour animer les concertations autour de l'élaboration de son projet de territoire. Ce qu'il faut retenir là-dedans par rapport à cette diapositive, c'est la très forte ambition de mobilisation très large d'un énorme panel hein, finalement de représentants de différents organismes allant jusqu'aux citoyens et sur laquelle, alors vous voyez ce qui est dans les bulles en bleu, nous avons contribué directement à l'animation des concertations. Ça a regroupé ce qu'on avait appelé là-bas des citoyens témoins. C'était des citoyens proposés sur invitation des maires des communes de l'agglomération. On a beaucoup travaillé avec les élus municipaux, c'était très intéressant. Donc ils se sont fortement mobilisés autour du projet de territoire de l'agglomération. On a fait trois séquences d'ateliers avec ces élus municipaux. 45 heures, vous voyez, en tout d'ateliers animés. En parallèle, on a évidemment rencontré les acteurs socio-économiques du territoire. Alors pour l'anecdote, on a entre autres pu parler avec Naval Group, par exemple, ou encore un contre-amiral de la base des fusiliers marins hein, qui est implanté sur ce territoire, et in fine, les citoyens. Et en arrivant ici, aux citoyens, on a proposé la mise en ligne d'une plateforme qui va vous être présentée ensuite. Sur cette plateforme, il y avait différentes possibilités de contribution. Je présente juste en parallèle les autres catégories d'acteurs, de contributeurs à ce projet de territoire qu'on a intégré dans le rapport des concertations, mais qu'on n'a pas piloté directement dans l'animation. On avait différents réseaux d'acteurs socio-économiques en parallèle des entretiens. Le Conseil de développement du Pays de l'Orient a également travaillé. Alors, si je dis pas de bêtises, Manon, Christophe, vous me corrigez, mais je crois qu'eux, ils avaient plus particulièrement bossé sur les questions de jeunesse, hein, je crois, sur le territoire.
Oui, tout à fait. Ils avaient choisi un sujet, ils s'étaient concentrés pendant tout le long de la concertation sur ce sujet, et à la fin, ils nous avaient partagé un certain nombre de propositions qu'ils avaient élaborées de leur côté.
Il y avait également le réseau métier des DGS des communes. Alors, la slide n'est pas très bonne parce que finalement, on a quand même travaillé avec eux directement. On les a mobilisés sur un séminaire en restitution et co-construction. Donc dans un format très intéressant, également l'administration hein, de cette agglomération qui a pu contribuer à ce projet de territoire.
Oui,
dans les chiffres. Vas-y, Christophe.
Oui, je pense que ça, c'est un point extrêmement important parce que c'est ça que moi, de l'extérieur, parce que je voyais un peu comment ça a été déployé, ces ateliers avec la DGS et les services, c'était un moment extrêmement clé. Et quand je parlais d'emmener en fait les services, parce qu'en fait quand on fait un projet de territoire, finalement on enclenche dans le daily business en fait d'une organisation publique qui comporte peut-être déjà au moins plusieurs centaines de projets, peut-être 50 propositions de projets supplémentaires. Et ce qui est extraordinaire dans cet atelier avec la DGS c'est qu'en fait ils ont finalement arbitré en fait par rapport aux nouvelles propositions qui venaient des citoyens ou des élus et de la société telle qu'on l'avait mobilisée, de dire mais qu'est-ce qu'on fait déjà, qu'est-ce qui est déjà en route, qu'est-ce qu'on a en plan, enfin en projet, et qu'est-ce qu'on doit ajouter. Et en fait cet effet-là, ce travail-là, ça a permis, si vous voulez, de rendre le projet de territoire beaucoup plus opérationnel, beaucoup plus vivant que simplement si on avait fait une liste du Père Noël de 50 ou 60 nouvelles propositions. Et je pense que ça a été une des clés du succès, c'était justement d'aller à l'encontre du silotage organisationnel de l'agglomération et de permettre d'avoir du réalisme dans le déploiement de ce projet de territoire. Et je pense que ça a vraiment été... À mon sens, pour moi, en fait, vraiment, plus que ça, j'étais totalement observateur de ce passage. J'ai trouvé que c'était vraiment vraiment un moment clé et une grande valeur ajoutée du processus.
Tout à fait.
Je pense que la...
Oups, vas-y, Myriam.
Non, je pense que la remarque sur le chat de Carole Zelinski va aussi en ce sens hein, de l'importance de la participation également des services administratifs dans ces démarches.
Ouais, c'est ça. C'est en fait c'est exactement ce que je mettais, c'est-à-dire que Ce que décrit M. Timmerman, c'est aussi ce qu'on fait avec la Direction générale des services de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg, avec cette particularité qu'on a une administration fusionnée, ce qui n'est pas forcément le cas partout en France. Et l'idée, c'est de ne pas faire en sorte que la participation citoyenne reste l'apanage de la direction de la participation citoyenne, mais c'est de bien faire changer les pratiques en matière de mode projet dans l'ensemble de l'administration, sur toutes les directions thématiques, pour que chaque projet qui démarre, parce qu'on en est à l'initiative avec un nouveau mandat, ou qui est en cours actuellement, où on regarde en fait comment on y inclut de la participation citoyenne. Et ça, ce changement, il est aussi fait grâce à ce que met en avant Monsieur Timmerman, ce travail aussi de rangement et de priorisation. Donc c'est aussi une grosse acculturation des services globaux de la ville et de l'Eurométropole de Strasbourg. C'est très long, il y a beaucoup d'agents, et c'est un travail de fond qui ne se voit pas, mais qui rend finalement la participation citoyenne plus concrète dans les projets, quels qu'ils soient. Travail de long terme.
Oui, je disais que, ce que je voulais dire, c'était que nous, si on a aussi souhaité partager ce retour d'expérience-là, c'est qu'on le trouvait très intéressant sur les interactions en fait qu'on a réussi à mettre en place entre les différents publics qui ont été concertés. En fait, donc là dans la slide, on voit bien le panel en fait de citoyens, de personnes que l'on a mobilisées. Mais en fait, ce qu'on voit pas, c'est l'ensemble des interactions qu'on a créées, puisque l'idée c'était pas uniquement de récolter des avis, des propositions de la part de ces différents publics, mais bien de faire collaborer ensemble et en fait d'enrichir de façon progressive les concertations. Autrement dit, quand on a consulté les quand on a concerté pardon avec les élus municipaux, on les a pas vus de façon déconnectée du dispositif. On les a vus à trois moments précis, qui était chaque fois précédé de moments de concertation qui permettaient de leur faire d'ores et déjà remonter des informations, ce qui fait que lorsqu'ils travaillaient ensemble, ils ne travaillaient pas sur la base unique de leurs propres observations, de leurs propres attentes, mais bien aussi sur des informations, sur des propositions, sur des attentes qu'ont partagé les citoyens à différents niveaux, que ce soit des acteurs socio-économiques, des témoins ou encore donc les différents réseaux qui ont été mobilisés. Ce qui fait qu'il y a eu un véritable processus d'incrémentation au fur et à mesure qui a permis d'avoir à la fin de s'assurer en fait à la fin que toutes les propositions avaient bien été lues, vues, entendues par chacun des groupes mobilisés.
Ouais, puis peut-être ce que tu aurais pu rajouter aussi, Manon, et c'est vrai que ça fait partie aussi de la qualité de ce dispositif à mon sens, c'est qu'en fait, en variant les méthodologies de consultation ou de concertation, en faisant soit du sondage, soit des micro-trottoirs, soit des ateliers en ligne, soit toutes les interventions sur la plateforme en ligne directement. En fait, on avait un panel, un profil de participants qui était extrêmement divers. Et ça, c'était vraiment aussi une des clés. Mais peut-être que Grégoire va en parler par la suite plus concrètement.
Très bien. Alors, je vous propose d'avancer du coup.
Oui.
Allons-y sur l'outil, la plateforme qui a été utilisée.
Alors, la plateforme, c'était vraiment considéré pas seulement comme un outil numérique, en fait. C'était, dans le cadre de ces dispositifs, un outil qui se voulait, quelque part, un peu centralisant les informations et surtout ouvert à différentes façons d'interagir. Donc, pas uniquement via le numérique, mais par exemple pour la première partie qui était un sondage de territoire qu'on a mis en place, donc les personnes pouvaient répondre aussi bien sur la plateforme, mais pour faciliter l'accès à toute autre personne, on avait aussi mis des formulaires papier qu'on distribuait aussi bien dans les mairies que dans les EHPAD, que dans des centres différents, afin d'aller le plus possible au contact de la population, et ensuite ces formulaires papier, on les recentralisait en ligne afin de créer les liens et la visibilité pour tout le monde de ce qui s'était passé sur les différents supports. Donc sur la plateforme, on avait mis une timeline claire dans la page d'arrivée afin que chacun puisse comprendre quelles sont les différentes phases qu'on avait imaginées. Et on a donc commencé par les sondages, comprendre le territoire. Ensuite, on a commencé à mettre en place aussi la prise des propositions, en fait, qu'on géolocalisait. Pareil, la prise des propositions, toujours avec différents moyens. Les personnes pouvaient intervenir aussi bien sur papier et on allait les chercher. Après, Grégoire, il va parler un peu plus aussi de ce qu'on a baptisé la marguerite, finalement, de la participation qui est un outil qui nous a permis véritablement de créer aussi bien une visibilité qu'une synergie des personnes qui auraient pu participer sur la plateforme. Et toutes les propositions venaient sur la plateforme toujours centralisée. On avait créé un groupe qui permettait de faire comprendre si c'était des questionnaires papier qui avaient été soumis par nous, et ou si c'était des propositions directement faites par les citoyens sur la plateforme numérique. Et ensuite, elles étaient géolocalisées afin de créer des focus locaux, mais tout en maintenant une synergie transversale, en fait. On a utilisé la plateforme aussi, bien sûr, pour faire de la communication, mais la plateforme toute seule ne suffit pas. Donc, il y avait différents outils de communication aussi bien via les réseaux sociaux que toujours par des affiches aussi dans la ville et d'autres moyens, toujours en allant chercher les citoyens là où ils sont. Et via la plateforme, on a communiqué aussi des ateliers participatifs qu'on a fait. On en a fait 3. Et à chaque fois, toutes les propositions qui ont vu le jour lors de ces ateliers ont été remises dans la plateforme. Au final, on a récolté, il me semble, j'ai pas les chiffres en tête, on aurait dû les mettre sur les slides, plus de 400 propositions qui ont été ensuite utilisées par la base du projet de territoire. Et j'imagine que Grégoire et Christophe, vous aurez sans doute des choses à rajouter.
Moi, je trouve que tu as été assez complet quand même pour faire le dispositif et par rapport à ce qu'on va. Donc, moi, je vais peut-être ajouter tout à l'heure, quand je vais parler d'un autre projet où on a eu aussi un focus un peu particulier sur la mobilisation, et peut-être aussi quand on va être sur le slide d'après où on va reprendre les facteurs clés de succès, on pourra peut-être du coup faire un retour par rapport à ce qui a été dit sur l'Orient pour préciser certains points. Je ne sais pas, toi, Christophe, si par rapport à ce que Mathéo a dit en complément de ce qui était dit initialement pour présenter le projet de territoire et l'approche plus globale, si tu vois quelque chose.
Non, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est multiplicité de moyens de communication et de contact finalement avec les publics qui amène en fait à la capacité finalement de créer un panel de gens qui est beaucoup plus large que si on utilise un seul ou deux moyens. Et c'est ça qui était aussi la force de ce projet, c'était d'être en ligne et hors ligne avec une diversité d'outils pour converser avec les populations.
Parfait. Du coup, s'il y a des questions ou une discussion sur ce point, sinon on peut passer à la suite. On passe à la suite alors.
Tu es prêt à présenter ?
Alors, il me semble qu'on avait dit que oui, Manon, tu présentais toute la partie de gauche, et puis Mathéo et moi, on revenait un peu plus sur les facteurs clés de succès. Si...
Oui, donc la plateforme, enfin, la mise en place de cette plateforme en ligne a présenté de véritables bénéfices pour notre démarche de concertation. Tout d'abord, cette plateforme permettait d'avoir une solution unique qui regroupait en fait tous les dispositifs qu'on mettait en place en matière de participation citoyenne. Ça permettait de centraliser à la fois toute la communication autour de la démarche. L'inscription aux ateliers citoyens en ligne, mais également la réponse à des questionnaires. On avait mis en ligne un questionnaire qui s'appelait donc Ma perception du territoire et qui permettait aux citoyens de livrer leur façon de se sentir dans le territoire et de faire un diagnostic en fait de tout ce qui existait sur le territoire. Et on avait également, grâce à la boîte à idées, la possibilité pour les citoyens, toujours sur la même plateforme, de proposer des idées qui figureront ensuite dans le projet de territoire. Donc voilà, l'idée c'était de pouvoir créer une plateforme très claire, facile d'accès et la plus complète possible afin que les citoyens sachent en un nombre de clics moindre comment participer et qu'ils participent surtout selon les modalités qui les intéressaient le plus. Ensuite, donc, ce qui était vraiment intéressant avec cette plateforme, c'est qu'elle était relativement adaptable, qu'elle a pu être totalement pensée, modulée en fonction des besoins exprimés par l'agglomération. Et donc, il y avait une grande liberté de création à ce niveau. Et finalement, on se rend compte qu'elle s'est révélée très utile dans le dispositif, puisqu'elle a permis d'augmenter le taux de participation et la représentativité de la démarche participative. On a réussi, en analysant en fait les données qu'on a reçues, à voir que on avait mobilisé les jeunes, les actifs, qui sont en règle générale plutôt absents des démarches de participation citoyenne. Et finalement, on a réussi à obtenir plus de 1 000 contributions au total, et ces contributions ont pu être ensuite ajoutées au projet territoire, pas dans leur intégralité, puisqu'il y a évidemment eu des phases des phases d'analyse des contributions et de sélection, mais elles ont au moins pu être partagées au public qui était concerné.
Peut-être ce qui était intéressant, c'était les 1 000 contributions, justement, elles alimentaient, en fait, elles permettaient de sortir de l'entre-soi, d'une discussion, par exemple, avec les élus. En fait, on insufflait, en fait, ces propositions dans leur conversation, dans les ateliers, et ça ouvrait vraiment un peu les chakras, et ça a vraiment eu des effets bénéfiques tout à fait intéressants lors des ateliers qu'on a pu ensuite conduire tout au long du processus.
Tout à fait. Si on reprend juste le dispositif qu'on avait mis en place pour les élus municipaux, on a réalisé trois vagues d'ateliers avec eux, et on a souhaité faire un processus très évolutif. Donc dans le premier atelier, l'objectif c'était vraiment de parler de la perception du territoire et donc de faire un état des lieux, un bilan de ce qui existait sur le territoire. Et puis progressivement, dans le deuxième atelier, on s'est plutôt intéressé aux envies, en fait, aux attentes que l'on percevait sur le territoire. Et dans le dernier, on est allé vers la proposition d'idées concrètes, la formalisation d'objectifs à mettre en œuvre dans le cadre du projet territoire. Et au fur et à mesure de ces ateliers, on ajoutait, on diffusait des propositions qui étaient faites par les citoyens. Et on leur présentait en fait deux pans du projet et des éléments qu'on récoltait. Le diagnostic, c'est-à-dire que leur bilan était en fait enrichi du bilan que faisaient les citoyens qui participaient à tous les autres dispositifs, dont le questionnaire sur la plateforme en ligne. Et le deuxième pan, c'était les propositions, les idées. On était en capacité, par exemple, lors du deuxième atelier qui portait sur les attentes, la définition de besoins, d'objectifs pour le territoire, de leur parler des attentes des citoyens. On pouvait leur dire, ben voilà, à ce stade, voilà toutes les attentes que l'on a récoltées de la part des citoyens, que ce soit les acteurs socio-économiques, les témoins, les citoyens qui ont répondu à la plateforme, qui ont participé aux ateliers en ligne, etc. Donc, ils étaient tout le temps informés, en fait, et ils avaient un aperçu de ce qu'on commençait déjà à ressentir dans les contributions que l'on recevait.
Dans les facteurs clés de succès, ce qui était très important, c'est l'hybridisation du processus finalement. Grâce au Covid, quelque part, désolé d'utiliser ce terme, on a pu bénéficier, comme on a vu dans les interventions précédentes, d'un port passif des personnes qui se sont familiarisées avec les outils. Et par contre, bien sûr, la présence physique et les relations humaine, un présentiel. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a compris véritablement la dimension de mélanger les deux choses. Il y a une valeur très importante qui permet de faire avancer de façon concrète des projets, aussi bien sur le présentiel qu'en ligne. Et c'est ce qu'on essaie de faire avec cette plateforme. Et ça a été effectivement un des facteurs clés du succès que d'aller justement chercher les personnes en présentiel et ramener aussi les interventions présentielles en ligne. Donc ça, c'était pour les premiers. Je te laisse la suite.
Alors, un point vraiment hyper important aussi, c'est que tout projet de type Civic Tech doit impérativement débuter par ce qu'on appelle, nous, un design de concertation. Donc, il ne s'agit pas seulement de se dire « Ok, on va prendre un module. »
En fait, c'est un événement interne annuel. C'est un semaine du numérique responsable, mais c'est des conférences, mais moi, je ne suis pas…
Monsieur Mouquet, votre…
Est-ce que quelqu'un peut couper le micro, s'il vous plaît? Donc, j'en étais… Oui, voilà, ce concept de design de concertation, donc, en fait, il est absolument primordial puisque… Donc, on aime bien utiliser ce terme de design en faisant un clin d'œil au design thinking, c'est-à-dire le fait d'avoir vraiment cette approche centrée utilisateur. C'est très important parce que, en fait, dans cette démarche d'inclusivité où on sait, on l'a bien mis en exergue depuis le début là, de notre intervention, c'est la difficulté d'aller toucher certains publics, de ne pas se limiter aux usual suspects, enfin, les publics qui viennent et qu'on retrouve toujours dans ces types de participation. Et en fait, en pensant vraiment, en se mettant à la place des différentes catégories d'utilisateurs en utilisant des outils de type persona, user journey, on s'assure de vraiment aller trouver les bons messages, les bons canaux. Et ça nous permet aussi de vraiment être bien bordé sur tout ce qui concerne la transparence et la redevabilité. On en a parlé un peu tout à l'heure, mais c'est indispensable pour le succès de ce type de démarche que toute personne qui va participer sache exactement à quoi elle participe. Parce qu'on sait que ça va leur demander un effort, on leur demande du temps pour qu'ils participent. On sait que pour un certain nombre d'entre eux, ils ont été un peu échaudés parce que par le passé, ils ont été appelés à contribuer et sans que ce soit forcément du civic tech washing, bah, il n'y a pas eu vraiment de retour parce que juste ça s'est trouvé empêtré un peu dans des processus ensuite un peu administratifs et il n'y a pas eu vraiment de concret. Donc ça, c'est vraiment important. Et en ayant cette approche centrée utilisateur, c'est aussi l'occasion d'aller vraiment définir des indicateurs en bonne intelligence entre les personnes qui accompagnent le projet, les personnes qui portent le projet, et de se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on va évaluer la qualité de la participation et en laissant de la place pour l'agilité pour aller à tout moment rectifier un petit peu le tir.
Voilà, pour ce point-là. Est-ce que je peux intervenir, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr.
Merci. Je sollicitais Philippe Raffano, mais finalement, le message est parti à tout le monde. Mais on a un peu ça chez nous, c'est ce qu'on appelle la revue de concertation, où en fait, dès qu'il y a un projet qui intègre de la participation citoyenne, on le passe en revue au prisme de l'ensemble des services techniques qui sont concernés et de l'ensemble des élus thématiques et de quartiers qui sont concernés pour justement garantir la qualité du processus de participation. Qu'on ne soit pas dans de la fausse promesse, qu'on soit bien clair avec les gens sur comment on les intègre et à quoi on les fait participer, quel niveau de participation, etc. Donc, pour améliorer nos démarches. Et je trouve ça super intéressant que ce soit fait vraiment dans cette notion de design, en fait, dans le numérique. C'est pour ça, Philippe, si tu as deux, trois exemples à donner ou à échanger, je pense que ça peut être intéressant sur la dimension plateforme, parce que souvent, les services nous disent « Bon, bah, est-ce que vous pouvez pas nous publier ça sur la plateforme ? On fait un appel comme ça. » Ah non, il faut un peu plus le penser pour que ce soit efficace et pertinent. C'est pour ça que je sollicitais Philippe, si tu as deux, trois exemples à donner, ce serait peut-être chouette.
En fait, on essaye toujours de, finalement, grâce à la revue de concertation, de clarifier la commande et puis justement rentrer dans l'échelle de participation. Et dédiaboliser aussi la notion d'information, qui est pour nous la base. En fait, le numérique permet justement de donner et de simplifier l'information qu'on donne aux citoyens et pourquoi pas les associer à la décision. Donc ça, c'est le processus plus tard, quoi. Et aussi, dans la participation, j'ai entendu le design thinking. On essaye justement, la notion de persona, pour nous, elle est hyper importante. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire à la rentrée en septembre avec le panel citoyen, de tester justement, plutôt que des gens, c'est des profils, en fait, des profils de citoyens. Et qui va évoluer en plus pendant les ateliers de travail, c'est-à-dire qu'on va essayer d'emmener les gens vers un autre profil et de parce qu'on parle participation citoyenne, mais on parle aussi un peu d'éducation populaire, c'est éduquer les gens à s'exprimer et à donner leur avis sur la cité, quoi. En tout cas, c'est un peu notre philosophie, quoi.
Oui, je crois qu'on peut aussi témoigner de l'utilisation avec Grégoire et Mathéo de la séquence persona user journée. Justement pour permettre en fait quelque chose qui est fondamental dans une conversation collective, c'est que surtout quand on a par exemple des associations qui sont des associations qui défendent une cause ou un point de vue, un intérêt dans la cité, l'utilisation des personas, ça permet de décentrer les opinions et de faire parler en fait des acteurs qui ont en fait une vision du territoire qui est intéressante autrement que sur l'angle et la focale de leur cause militante, par exemple, qu'elles défendent. Et ça, ça marche vraiment super bien. Et c'est vraiment un truc que nous aussi, on a beaucoup déployé ces deux dernières années.
Et moi, juste pour finir là-dessus, très, très intéressant, effectivement, ce retour. Philippe, je vous invite, je pense que vous avez déjà eu l'occasion de tomber sur des ressources de la 27e région, mais en tout cas, nous, on échange pas mal avec eux, on a collaboré sur certains projets, et c'est une mine pour ce genre d'approche. Est-ce que vous expérimentez, vous voulez développer un peu plus au sein des services? Ils sont très, très bons et ils ont vraiment des ressources génialissimes en la matière.
Oui, ils sont venus chez nous faire des ateliers en fait sur plusieurs sujets. En fait, c'est vrai.
Bah, Mathéo, je te laisse enchaîner avec le point suivant.
Oui, pratiquement tout ça n'existe pas si on communique pas et si on mobilise pas les gens. Et ça se fait pas du jour au lendemain, c'est pas une baguette magique, c'est pas quelque chose qu'on peut acheter au kilo dans un magasin. C'est véritablement une démarche qui prend du temps, qui doit être continue. Et dans le cadre de Lorient, on a eu la chance qu'elle était vraiment très transverse. Et ça partait du haut, mais du bas aussi. Et finalement, c'est un facteur clé du succès qui est d'arriver à entretenir les communautés. Et on verra aussi à la découvrir grâce à la marguerite que Grégoire a présentée tout à l'heure, parce que il y a déjà une richesse bien sûr sur chaque territoire qui existe, souvent n'est pas répertoriée, n'est pas visible, ou si elle est visible, elle n'est pas forcément toujours inclue. Donc c'est vraiment intéressant de mettre en place un dispositif qui permet de répertorier, d'inclure, de faire sentir surtout bienvenue et en confiance dans les discussions, et surtout qu'il y ait un sens et un suivi. Et que ça permet d'avoir un changement concret. Donc, c'est sans ça, ça ne sert pas à grand-chose non plus.
Alors, ensuite deux Grégoire. Points. Merci. Ensuite, deux points de cadrage sur lesquels je vais passer relativement rapidement pour avoir juste quand même un moment pour vous faire ce retour sur cette fameuse marguerite. Donc, sur la modération, donc en fait, c'est important de bien réfléchir à la charte. Et pas seulement de copier-coller les chartes qu'on peut trouver, qui sont plus ou moins par défaut maintenant dans les plateformes de participation. Il faut que la charte, elle soit pensée avec le bon ton et pour que les gens se rendent compte de ce qu'ils peuvent apporter ce qui sera bienvenu et ce qui pourrait être modéré, donc en toute transparence, et c'est facilité aussi. Donc nous, on a tendance à privilégier, dès qu'on peut, l'utilisation de la plateforme Decidim, qui est un peu une plateforme de référence en la matière, puisque ça permet aussi, en fait, la plateforme est construite de manière à ce que ce soit impossible, même par l'administrateur, d'aller supprimer, effacer une contribution. Et donc, si à tout moment, il y a une demande un peu musclée pour dire « Non, mais moi, je veux, j'ai posté quelque chose, ça a été modéré », c'est pas possible de le faire. Donc on a ce... Et ça permet d'être beaucoup plus à l'aise dans sa façon de rédiger sa charte de modération. Et le format de réponse de proposition, alors ça, c'est quelque chose aussi, donc on a la chance d'avoir Christophe qui est très bon sur tout ce qui est aussi question motrice et puis rédaction de mini canevas qui permettent de cadrer. On se rend compte que plutôt que de dire boîte à idées, enfin faites votre proposition pour améliorer quelque chose, eh ben on va faire soit un peu des phrases à trous où on va en fait un petit peu structurer le format de la proposition type, et ça va permettre aux gens de mieux formuler, et ça va nous permettre aussi derrière de mieux gérer, analyser toutes ces propositions. Après, la limite, c'est quand on arrive sur des centaines et des milliers de propositions, effectivement, on en arrive, et donc c'est ce que j'ai compris qui était aussi en cours de réflexion à Strasbourg, de l'utilisation d'algorithmes, d'intelligence artificielle, etc., pour aller traiter ces grosses sommes d'informations. Petit point RGPD, Mathéo, pas trop long, mais indispensable. Ouais.
Juste pour mentionner le fait que c'est un métier à plein temps véritablement d'assurer la conformité RGPD, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner, mais c'est clair que ça nécessite une pensée dès le départ du projet, effectivement, pour être conforme à RGPD, et tout le long du projet, avec chaque outil numérique qu'on utilise, chaque prise d'information doit être bien encadré pour que ce soit conforme. Et on peut passer à la marguerite désormais, donc au slide suivant.
Voilà, alors, cette fameuse marguerite, dénomination poétique qu'on doit à Christophe, mais vous comprenez pourquoi, c'est la partie de gauche. Donc je vais vous présenter un petit peu cet outil, on va dire. Et là, donc c'est un outil qu'on a utilisé aussi pour Lorient, et là en fait on s'est dit que c'était intéressant aussi de faire un retour sur une autre consultation qui nous a beaucoup occupé ces derniers mois, donc sur 2021 et début 2022. C'était dans le cadre du plan climat cantonal, donc avec le service du développement durable de l'État de Genève. Et donc, je ne vais pas revenir sur l'entièreté du dispositif, mais il y avait une plateforme Decidim et il y avait autour aussi un dispositif avec des actions en présentiel, donc ce fameux dispositif hybride, notamment l'organisation d'un World Café. Mais en tout cas, là, l'idée, c'est de faire un peu un focus sur... on a voulu faire un focus d'inclusivité sur les associations locales qui étaient actives sur les thématiques en rapport avec le changement climatique. Alors en fait, on s'est aperçu au moment du design justement de cette consultation qu'il y avait un écosystème associatif qui était très riche et très actif sur le territoire de Genève, mais que en fait ces associations, elles échangeaient très peu avec les administrations, elles se connaissaient pas bien et elles échangeaient très peu. Et aussi qu'il y en avait beaucoup qui se connaissaient pas entre elles et qui avaient un fonctionnement un petit peu en silo qui passait à côté de synergies intéressantes. Et donc, on s'est dit, en fait, nous, d'une part, on a envie que ces associations puissent donner leur parole dans le cadre de ce plan climat cantonal. Et on sait aussi qu'ils ont des fortes communautés de suiveurs sur leurs différents réseaux, dans leurs newsletters et sur la partie immergée de l'iceberg, immergée quand on sait la regarder, sur Facebook notamment et d'autres réseaux sociaux. Donc ça, c'est un peu c'était un peu le point de départ. Et donc, on a mis en place cette cartographie des acteurs associatifs. Alors, je vais vous faire un petit peu le détail de la marguerite. Je mets juste un petit point d'attention à cet endroit-là. C'est que quand on a décidé d'avoir un effort spécifique de mobilisation auprès de ces acteurs, on a bien pris garde dans le design de la consultation, le placer au bon moment. Et ce bon moment, c'était de s'assurer que la plateforme était déjà lancée et que sur la plateforme, il y avait déjà un certain nombre de propositions sur les différentes thématiques, où on avait donc des thématiques de mobilité, d'aménagement, etc. Et qu'il y ait un nombre minimum de propositions qui est déjà émergé. Donc, ça tombait bien, puisque dans notre agenda, on a pu placer ce World Café qui a été l'occasion, donc en présentiel, d'animer avec différents groupes et de faire émerger des propositions très qualitatives et d'aller les reporter sur la plateforme. En plus, des propositions qui étaient déjà arrivées de manière un peu organique, sans gros efforts de mobilisation. Donc, c'est important parce que ça permet d'éviter l'effet page blanche. Ça veut dire que si on investit pour faire de la communication et des efforts de mobilisation spécifiques, bah, tant qu'à faire, on n'a pas envie que les personnes qui arrivent se sentent un peu moins encouragées à participer, parce que quand on arrive sur une plateforme et qu'il n'y a que 2-3 propositions qui sont déjà affichées, bah, on sait, hein, les études montrent que les gens ont plus tendance à se dire « Ok, je reviendrai plus tard », ils ne reviennent jamais. Donc ça, c'est un point important. Et en fait aussi, c'est très important puisque vous allez voir que derrière, dans le dispositif de mobilisation, on a beaucoup d'attention qui est portée sur le fait d'être contextualisé, personnalisé, sur mesure pour les différentes associations. Et là, c'était l'occasion d'aller les pointer directement vers des propositions dont on était sûr que ça allait que ça allait les intéresser, que ça allait leur donner envie d'aller commenter ou d'aller soutenir, parce que c'était exactement dans le champ d'action de ces différentes associations. Donc, cette fameuse marguerite, là, en l'occurrence, pour ce projet-là, le cœur de la marguerite, on a mis les associations qui sont généralistes sur tout ce qui est en rapport avec le climat. Donc là, il n'y a pas le niveau de Zoom, mais pour chaque association, il y a le nom de l'association, il y a une capture d'écran, soit du bandeau de la page Facebook, soit du site internet, mais qui permet de donner un peu une identité visuelle à l'acteur. Et il y a le comptage du nombre de sa communauté sur les réseaux, donc le nombre de fans ou d'abonnés sur Facebook ou de gens sur les forums, etc. Là, comme on peut voir, à l'extérieur du cercle, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont listés, qui, eux, correspondent aux différentes thématiques qu'on voit sur, donc, comme eau, énergie, habitat, sobriété, etc.
C'est les pétales de la marguerite.
Voilà, exactement. Merci, cher poète. Important aussi, cette marguerite, elle est vraiment utile parce que c'est vraiment, encore une fois, un petit peu du design. Donc, on fait ça avec les tableaux et c'est une partie importante. Par contre, le cœur du dispositif, c'est les deux autres parties à droite, c'est-à-dire que le pendant de cette marguerite, c'est d'une part un tableau type Excel sur lequel on va pouvoir lister les informations concernant chacun des acteurs, les liens vers les sites internet, les pages Facebook, les comptes Twitter, le cas échéant, les forums, etc. Une description, le nom des personnes clés qu'on a identifiées à contacter, des remarques éventuelles s'ils ont déjà été contactés par tel autre service dans le cadre d'un autre projet. Et ça va nous servir aussi, ce tableau, sur la partie de gauche, de tableau de bord de suivi, où on va pouvoir, c'est des projets qu'on fait en équipe, de manière collaborative, voir qui a été contacté en utilisant quel canal. Donc, soit il y en a beaucoup qui ont été contactés en fait directement par Facebook Messenger. Il y en a certains par email, il y en a certains par LinkedIn. Mais en fait, au moment où on lance cette mobilisation, on réalise un document sur lequel on va faire des messages type de prise de contact qui sont, donc ce message, il est validé avec l'équipe, donc en l'occurrence c'était avec le service du développement durable, puisqu'on s'exprime nous en tant que communicant et que community manager, on va dire, au moment de la mobilisation, on s'exprime en notre nom, mais dans le cadre de ce projet, donc de ce mandat. Et ensuite, c'est ça le point clé, c'est qu'on va vraiment personnaliser chaque message qu'on va envoyer en disant, ben voilà, voilà pourquoi on vous contacte. On a vu que là, vous aviez fait telle action le mois dernier ou par le passé. Par rapport à ça, il y a une proposition. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, du coup, on a une forte adhésion. Les gens sont très sensibles au fait que un projet qui vient d'une collectivité territoriale, d'administration, a pris la peine de vraiment regarder leur action. Et du coup, ça fait un retour. Donc là, on a eu un peu plus de 50% de retours de gens qui ont proposé d'aller participer, relayer. Et surtout, le point clé, c'était la co-construction avec eux. Donc en gros, il y a l'État de Genève et il y a plusieurs associations qui sont contactées, qui se mettent ensemble autour d'une thématique et qui vont proposer un temps d'atelier. Donc là, on est arrivé à une dizaine de propositions d'ateliers co-construit avec les associations et avec les services de l'État qui sont donc du coup en cours de réflexion au sein de l'État pour voir comment les échelonner par rapport au plan climat. J'ai un petit peu accéléré du coup, je regarde si j'ai rien oublié sur les points importants parce que je vois qu'on est vraiment tout près de la fin. Voilà, peut-être juste pour finir, voilà, en conclusion, c'est que cette approche de Marguerite avec la mobilisation qui va avec, bien entendu, ça nécessite des ressources, puisque ça demande quand même du temps pour pouvoir faire ça bien. Mais par contre, ça permet vraiment de toucher un nombre important de personnes grâce à ces communautés avec des milliers de membres au niveau de ces associations, où elles sont à même d'aller relayer et de reprendre très bien le message. Ça permet de créer et d'intensifier le lien entre le tissu associatif et l'administration. Et ça permet de co-construire des formats de rencontres et d'ateliers avec un fort engagement citoyen, encore une fois, grâce à cet aspect de collaboration très renforcé des associations avec, les administrations. Voilà. je ne sais pas s'il y a des réactions ou des commentaires, ou je te repasse la main, Julien, pour...
Oui, eh bien, on a...
3 minutes qui restent.
Voilà, on a la chance d'avoir 3 minutes qui restent pour échanger. C'est pas grand-chose, mais... N'hésitez pas à intervenir. On n'a pas le loisir de vous proposer de prolonger la discussion autour d'un verre, mais si jamais le temps qui nous reste ne vous suffit pas, bien sûr, n'hésitez pas à nous interpeller par écrit de toutes les manières que vous souhaitez. On a nos informations de contact qui sont là. On l'a dit en introduction, table ronde était enregistrée, donc elle sera mise à disposition avec le support qui a été projeté également. On vous encourage bien sûr à prolonger la discussion.